débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir. Merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. Au Venezuela, c'est la fin de la campagne officielle en vue de l'élection présidentielle qui va se dérouler ce dimanche. Le pays est enfoncé dans une crise économique sévère et l'opposition a décidé de boycotter le scrutin. On s'attend donc à une abstention massive et à la réélection du président Maduro, le président en place. Face à lui, pourtant, il y a deux candidats. L'un d'eux pourrait créer la surprise. On va voir. La population subit en tout cas une pénurie et une partie de la communauté internationale verrait d'un bon œil un changement de régime au Venezuela. Alors, président Maduro peut-il perdre cette élection présidentielle? On va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Paola Vasquez est docteur en anthropologie sociale et en ethnologie, chargée de recherche au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron. C'est le CESPRA du CNRS. Bonsoir à vous, Paola Vasquez.
Bonsoir.
Et puis, Thomas Posado est docteur en sciences politiques, spécialiste du Venezuela, auteur d'un article que je vous recommande qui s'appelle « Le Venezuela peut-il sortir de l'impasse ?» dans la revue Politique étrangère de Livry. Il est en ligne. Bonsoir Thomas Posado.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. Alors, depuis la mort d'Hugo Chavez, le Venezuela s'est enfoncé un peu plus encore dans une crise économique et politique. Est-ce que, je commence avec vous, Thomas Posado, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en résumé bien sûr, pourquoi le gouvernement Maduro est confronté à tant de difficultés ?
Une des principales difficultés que connaît le gouvernement Maduro, c'est qu'il est confronté à une crise économique sans précédent. On a à la fois un effondrement de la monnaie, qui est dû à un détournement du taux de change depuis plusieurs années, qui fait que globalement, il fallait 10 bolivars pour arriver à 1 dollar il y a encore 6 ans. Il en faut maintenant plus de 700 000. Et d'un autre côté, la chute des cours du pétrole dans une économie qui est dépendante du pétrole, où 95% de ses exportations dépendent du pétrole et où les installations pétrolières ont été mal entretenues. On a une chute un peu de la production pétrolière. Donc ce qui fait que la conjonction de ces deux facteurs, on a aujourd'hui 5 années de récession consécutive, une hyperinflation qui atteint les 14 000 et un État qui est aujourd'hui en défaut partiel de paiement selon deux agences de notation. Pour cela, la population elle a de grandes difficultés, elle a des difficultés pour s'approvisionner en aliments, en médicaments, en salaire minimum, ça représente un peu moins de 10% de ce qu'il faut pour une famille pour simplement s'acheter à manger. Donc du coup, c'est une situation qui est extrêmement compliquée pour la population et où à cela se greffe une crise politique entre Maduro qui essaie de se maintenir au pouvoir à tout prix, au prix d'une dérive autoritaire, et une opposition qui aujourd'hui est extrêmement divisée entre une stratégie plus conciliante et une stratégie de type plus insurrectionnel, en essayant de délégitimer les scrutins et en essayant de ne pas reconnaître le gouvernement ni Nicolas Maduro.
D'accord. Merci de ce résumé. Donc, situation catastrophique, crise sociale, crise sanitaire, un président qui s'accroche au pouvoir. Paola Vasquez, et une opposition qui n'a pas présenté de candidat commun. Pourquoi ?
En fait, la question c'est pas une question de boycotter, c'est une question de cohérence par rapport à ce qui s'est passé en République dominicaine les 3 premiers mois de cette année, dans lesquels l'opposition réclamait une rémotion, un renouvellement du bureau électoral qui est le même depuis une quinzaine d'années. Et là, c'est impossible de faire des audits, par exemple, et l'entreprise informatique, parce que les votes au Venezuela, là, il essaie un vote électronique, Smartmatic, reconnaît donc que c'est impossible de faire des audits et que c'est extrêmement vulnérable le système informatique du vote. Mis à part ça, il y a une situation donc des répressions extrêmement fortes. Il y a ces prisonniers politiques, donc un maire de Ceballos, de l'État de Táchira. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en fonction, des hommes politiques qui étaient importants au moment où ils ont été emprisonnés et qu'aujourd'hui ils se trouvent soit avec un procès qui les empêche de se présenter, soit donc en prison, soit à l'exil. Donc c'était très difficile pour la MUD d'accepter les conditions électorales dans lesquelles le scrutin a été posé. D'accord. Et donc là, il y a tout ça s'accompagne les stratégies de dénoncer ça dans les instances internationales. Donc c'est pas un boycott national, c'est quelque chose qui est cohérent avec leur politique. Après, on peut dire si on est d'accord ou pas, ou si c'est mettre en question question, c'est poser la question si c'est pas une opportunité. La question, c'est que c'est très obscur, Falcon, comme candidat aussi. Ouais.
Alors, avant de venir sur les candidats qui se sont présentés, on va revenir sur la MOUD. La MOUD, c'est justement cette union des oppositions qui a décidé de ne pas se présenter de candidat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thomas Posado? C'est contre-productif? C'est un risque? Comment vous analysez cette absence de cette élection présidentielle?
Ben, disons que la stratégie d'Henri Falcon et la stratégie des quatre partis principaux de la MOUD, qui est de ne pas se présenter à ce scrutin, sont inconciliables entre elles, et où l'action des uns et l'action des autres délégitime l'action de l'autre. C'est-à-dire qu'Henri Falcon, en se présentant à cette élection présidentielle, Henri Falcon qui a été un des dirigeants de l'aile conciliatrice de la MOUD, qui était le candidat de la MOUD dans un état du Lara en octobre dernier, donc une date assez récente. Et en se présentant, bah, il délégitime cette possibilité de rendre l'élection non concurrentielle. Du coup, l'élection est concurrentielle parce qu'il se présente à cette élection. Et à l'inverse, en refusant de participer au scrutin, les quatre principaux partis de la MOUD privent Henri Falcon d'un vivier de voix considérable qui sera un obstacle majeur si d'aventure il essaye de battre Nicolas Maduro dans une contexte économique où il pourrait capitaliser un vote sanction de manière assez large vu les conséquences pour la population de la crise économique qui se passe à l'heure actuelle. Donc on a une situation où les divisions entre les deux neutralisent les deux bords et retrouvent que Henri Falcon se retrouve en position de faiblesse alors que le pays est dans une situation extrêmement difficile. Alors il est vrai qu'il y a des conditions qui sont absolument pas transparentes, hein, de l'organisation du scrutin, mais la stratégie de l'opposition fait que elle est divisée et elle se neutralise elle-même. Après, enfin, voilà, le fait est que pour l'instant, l'opposition n'a pas réussi à créer un projet alternatif qui soit susceptible de mobiliser et d'enthousiasmer la majorité de la population. Et aujourd'hui, Henri Falcon, il propose une dollarisation de l'économie, ce qui peut avoir des conséquences lourdes pour la souveraineté monétaire du Venezuela, oui. Même si aujourd'hui la situation est extrêmement difficile. Mais donc, est-ce que ce projet, il est de nature à susciter l'assentiment d'une majorité de la population? C'est vraiment la question, et pour l'instant, enfin, l'opposition a du mal à convaincre, en dépit effectivement de tous les mécanismes institutionnels que le gouvernement met en place pour provoquer ces divisions, c'est-à-dire que le gouvernement en est conscient et provoque ces divisions au sein de la coalition d'opposition.
D'accord. Je te pose la question à Pablo Vasquez sur Falcon, parce que d'une certaine manière, vous dites Thomas Posado qu'il légitimise cette élection. Quelle opposition présente-t-il selon vous? Quelles sont ses chances, Pablo Vasquez?
C'est très obscur en tant que candidat, parce que d'une part, on ne sait pas qui finance cette campagne de Henri Falcon. C'est une campagne extrêmement coûteuse, assez impressionnante, avec dans un système dans lequel les financements des campagnes de l'opposition sont complètement verrouillés. Donc on se demande qui représente et quels sont les secteurs économiques qui sont derrière lui. Les mauvaises langues diraient que c'est des créditeurs du gouvernement de Maduro. C'est pas impossible, dans la mesure où c'est un gouvernement qui a fait énormément de transactions financières obscures et illégales dans le système financier international. Ça, c'est une chose importante. L'autre chose, c'est que ce programme économique, la dollarisation n'a pas de sens dans la mesure où il n'y a pas de dollar. Hein. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va dollariser s'il n'y a pas de dollar qui puisse circuler dans cette économie, dans la mesure où...
Il pourrait revenir.
Oui, mais on ne compte pas, parce que ce n'est pas une question qui est la chute du prix du baril. C'est que PDVSA est entre la compagnie nationale de pétrole produit moins de la moitié de ce qu'elle produisait en 98. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Venezuela, même si les barils montent à 100 dollars, elle devra toujours importer tout ce qui relève du raffinage, par exemple. Donc, c'est-à-dire que le Venezuela achète dans les marchés étrangers du pétrole en ce moment à $90 les barils pour le vendre sur place en essence raffinée à $5 les barils.
Alors
c'est intenable.
Donc
c'est une compagnie qui est complètement en faillite. Mmh. On est en train de faire un embargo des actifs de PDVSA. Ces créditeurs, justement, la ConocoPhillips, dans les domaines du pétrole, sont en train de faire des embargos systématiques. Donc, il ne faut pas compter sur la montée du prix du baril. Mmh. Donc, les programmes de Falcon, c'est obscur et c'est assez irréel.
Alors,
dans la situation. Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas une question d'enthousiasmer et de pouvoir faire quelque chose qui puisse capter l'électorat. C'est qu'il faut remonter à 2015 lorsque l'opposition gagne l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale, aujourd'hui, elle est déchue de ses pouvoirs, mmh. par tout ce qui s'est passé entre 2015, parce qu'on ne peut pas voir le film d'une partie, parce qu'on rate la première partie, c'est que cette opposition-là, justement, elle est dans un naufrage politique. Pourquoi? Parce qu'on a déchu les élus, parce qu'ils ont été élus par 14 millions de voix. Ils les ont déchus, ces députés-là, de leur capacité de légiférer.
Au profit d'une assemblée constituante.
Au profit de l'assemblée constituante. D'accord. Donc c'était extrêmement difficile d'en plus demander qu'ils puissent se présenter, ces députés-là, qu'ils puissent se présenter avec quelque chose de tenable et faisable dans ces élections.
Alors, il y a un autre candidat qui se présente, qui s'appelle Javier Bertucci. Et il semblerait que sa cote de popularité grimpe. Alors, je ne sais pas, vous pouvez nous dresser un petit portrait rapide de Javier Bertucci, Thomas Posado?
C'est un évangéliste qui essaye de capitaliser ce courant qui a un peu le vent en poupe dans l'ensemble de l'Amérique latine, donc attaché à des mesures extrêmement conservatrices en termes de mœurs. C'est un candidat supplémentaire qui peut prendre des voix en Henri Falcon. Et effectivement, il suscite un petit élan supplémentaire. Il y a un autre candidat qui s'appelle Renan Quijada qui représente, lui, un chavisme qu'il voudrait honnête, donc en opposition au chavisme de Nicolas Maduro, qui, lui, ne visiblement, d'après les sondages, mais les sondages au Venezuela, il faut en être très précautionneux, hein. Enfin, on a des écarts de 20 points selon les différents instituts, donc c'est assez difficile de les utiliser, mais visiblement, Javier Bertucci arrive un petit peu à émerger, contrairement à Renan Quijada, et Henri Falcon reste pour l'instant le candidat opposant en tête. Je ne pense pas qu'il soit financé par le gouvernement Maduro. Enfin, le gouvernement Maduro pourrait perdre cette élection. Enfin, il y a certains sondages qui le donnent perdant. Et il y a un tel sentiment dans la population contre cette crise économique aussi dure qu'il est difficile d'imaginer qu'Henri Falcon soit financé par,
non,
par le gouvernement
Maduro. Je n'ai pas dit les gouvernements, j'ai dit les créditeurs. C'est-à-dire qu'il y a des dettes, c'est un gouvernement surendetté dans une situation pratiquement faillite, et derrière ça, il y a des obligations financières que Maduro ne pourra pas régler. Donc c'est extrêmement obscur, et je pense que c'est valide de se poser la question de d'où sort l'argent de la campagne de Falcon.
Donc du coup, les créditeurs, ce seraient des puissances étrangères, des banques, des...
Il faudrait fouiller là-dedans. C'est très peu fouillé. Il faut pas oublier tout ce qu'il y a autour des Panama Papers, dans le cas où le Venezuela, c'est le principal pays de l'Amérique latine cité. Il y a les fonds en Andorre. Il y a la Chine aussi, qui a des obligations extrêmement importantes. Bon. Il y a la Russie. Enfin,
il y a toute une investigation
à faire,
d'accord.
C'est sûr.
En tout cas, je reviens sur la présence de ce troisième candidat qui amoindrit, c'est évident, les chances d'une alternance qui disperse les votes de l'opposition. Moi, la question que je me pose, Paula Vasquez, c'est la stratégie de l'opposition, finalement. Qu'est-ce qui va se passer dimanche soir si Nicolas Maduro est reconduit?
C'est une excellente question. Par exemple, s'il est reconduit, en fait, ce que je décris cette élection comme un jeu à somme nulle. C'est perdant. Ça perd partout. Si jamais Maduro l'emporte, comme c'est fort possible d'ailleurs, il n'aura pas la reconnaissance internationale, mais si jamais Falcon le remporte, il n'aura pas la reconnaissance non plus, parce que les élections d'ores et déjà sont pas reconnues par une certaine partie de la communauté internationale. Et si Falcon, jamais il crie la fraude, qu'est-ce qu'il va faire la MUD? Est-ce qu'il va le soutenir dans sa dénonciation de fraude ou pas? Parce que dire, je vous avais dit que c'était ses conseils électoraux nationale n'était pas fiable, c'est pas une stratégie à long terme, et c'était pas très intelligent au niveau politique, parce que c'est, oui, je vous avais dit, et alors? Donc c'est une énorme interrogation, et d'après ce que je vois parmi mes informateurs et mes inquiétés, c'est vraiment un moment d'extrême désespoir, parce qu'il y a des gens qui veulent aller voter, bien sûr, par Falcon, et qui vont aller voter, donc, mais on attend entre 65% et 70% d'abstention.
Ouais, c'est énorme.
Et c'est, mais justement, la question, c'est la meilleure question mais de la...
Une telle abstention, est-ce que ça veut dire que les Vénézuéliens ne sont pas prêts à exprimer leur colère dans les urnes? Et je me tourne vers Tomás Posado pour cette question.
Ce qui domine au Venezuela aujourd'hui, c'est de l'apathie, c'est-à-dire que personne ne voit dans cette élection présidentielle la solution à leurs problèmes de vie quotidienne. Quand les problèmes dans la vie quotidienne, c'est pouvoir s'alimenter, c'est pouvoir se soigner, l'élection présidentielle de qui sera le futur président, c'est un problème qui les dépasse totalement. D'autant plus qu'aucun des projets n'est de nature à montrer un chemin vers une solution à leurs problèmes de vie quotidienne qui sont extrêmement graves et qui sont l'accomplissement des besoins les plus élémentaires. Dans ce contexte-là, oui, l'abstention, elle sera sans doute assez forte. Et ce qu'on peut dire, c'est que plus l'abstention sera forte, plus les chances de Nicolas Maduro de l'emporter sera fort. Parce que le camp qui est mobilisé, c'est le camp de Nicolas Maduro, alors mobilisé par l'attribution de claps, c'est-à-dire des paniers alimentaires que le gouvernement distribue de manière plus ou moins régulière, de manière individualisée, donc qui suscite des critiques en termes de clientélisme. Par contre, le camp de l'opposition, c'est celui-là qui est démobilisé, et plus l'abstention sera forte, plus ce sera plutôt dans ce camp-là qu'on la retrouvera, et plus les chances d'Henri Falcon seront minces et sa probabilité de victoire très réduite.
Je reviens sur le risque de fraude que vous avez évoqué à l'instant, Paola Vasquez, parce que beaucoup l'évoquent d'ailleurs, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Elle sera contrôlée, elle sera surveillée, cette élection? Comment ça va se passer?
Non, il n'y a pas d'observateur internationaux qui soient indépendants du gouvernement. Enfin, c'est vraiment là, je dirais que justement, ça a fonctionné, la question de dire dans la scène internationale que cette opposition-là n'est pas légitime, dont l'Union européenne, d'ailleurs, la France, etc. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, il faut comprendre comment ça passe. Je pense que jamais a été plus, disons, impudique, un manque de pudeur, la stratégie clientélaire. C'est un clientélisme flagrant. Il y a la distribution, donc, pas seulement des nourritures, mais des bons en échange des voix, et c'est dit clairement cette fois-ci. Il n'y a aucune gêne à le dire. Ça, plus une répression très importante, les plans républicains cette fois-ci a été développé, ça c'est la militarisation totale du pays à la veille des élections. Cette fois-ci, c'est pendant huit jours, les enfants vénézuéliens n'ont pas eu d'école. Mmh. Les écoles sont fermées depuis, ça fait une semaine. Donc c'est une situation, comment dirais-je, d'une pression énorme sur la population, et donc comment ça va se passer? Ils vont chercher les gens chez eux pour les amener voter, parce que c'est aussi, et il faut comprendre que c'est l'espoir aussi d'avoir accès aux biens les plus primaires.
Une situation qui semble bien sombre. Si je vous demandais de finir sur une note positive, puisqu'on est à une minute pratiquement de la fin de cette émission, quelle serait-elle? En quelques mots, et je commence avec Tomás Posado.
Rapidement. Il faut de l'imagination, parce que ce ne sera pas une note positive à court terme. Les milliards de dollars qui ont été volés à l'État vénézuélien par ces détournements de taux de change, à la fois cette constitution d'une bolie bourgeoisie autour de Nicolas Maduro, ou aussi de grandes entreprises qui ont corrompu le gouvernement vénézuélien pour avoir accès à des dollars subventionnés, ces dollars, il faudrait qu'ils reviennent à l'État vénézuélien, ce qui permettrait d'avoir un peu d'oxygène.
Ou le retour des dollars, ce serait votre point. Et Paola Vasquez, ce serait lequel?
Disons que c'est extrêmement difficile à dire, dans la mesure où c'est les sentiments, c'est que de toute façon, les jeux est joué.
Ouais.
Et la question de Bertucci,
sauf si
quoi, mais ça peut être toujours pire au Venezuela, c'est ça qui est le problème, avec une division des forces armées qui casse la coalition qui est au pouvoir, parce que la coalition, on parle toujours de la coalition de l'opposition, qui est plutôt faible en termes de pouvoir, mais ce qui est fort, c'est la coalition qui est au pouvoir, que c'est une coalition militaire.
Allez, on n'a pas le temps d'en dire plus. Dommage. Paola Vasquez, merci, docteur en anthropologie sociale. Vous travaillez pour... Pardon ?
Ça serait terrible, une solution de ce type-là, parce que c'est violent.
Et Thomas Posado, je rappelle l'article publié dans la revue politique étrangère de l'IFRI, qui s'appelle « Le Venezuela peut-il sortir de l'impasse ?» Géopolitique consacre son émission de dimanche à cette question. Merci à Florence Pons, à Arthur Tossou, Emmanuel Chévin, Claude Baptista, bonsoir à tous.